Donc maintenant, le professeur Jean-Arnaud Mazer de Toulouse va continuer dans la même direction en parlant des puissances publiques, justement, à l'heure de la mondialisation.
Merci. Puissance ou impuissance, telle semble bien être, on vient de le voir, la question majeure, récurrente, posée aujourd'hui par la situation des puissances publiques face à la mondialisation. Les réponses, on vient de le voir aussi, sont complexes, évolutives, parfois encore incertaines, et le champ de la réflexion, pourtant déjà bien exploré, reste toujours ouvert. C'est dans cette ouverture que nous voudrions nous situer pour engager un autre plan et, au-delà des analyses empiriques, tenter de comprendre le sens de la relation entre puissance publique, ici entendue au singulier comme notion, et la mondialisation. L'entreprise n'est pas sans risque, et d'emblée surgit un véritable dilemme. D'un côté, en effet, la relation entre puissance publique et mondialisation ne peut être éclaircie que si chacun de ces termes est préalablement défini, le sens de l'un et de l'autre étant évidemment nécessaire à la compréhension et à l'établissement de leur relation. Mais d'un autre côté, on voit bien aussi que ce sens propre à chaque terme dépend, en partie au moins, de la relation qui les lie et qui, incessamment, les travaille. On est ainsi pris dans une relation circulaire qui semble clôturer et inhiber l'analyse. Il faut pourtant sortir du cercle. Et cela est possible en saisissant cette relation puissance publique-mondialisation de manière dynamique dans le mouvement d'une réversibilité toujours ouverte. La flèche vivante d'Héraclite doit faire oublier l'immobilisme conceptuel de Parménide. Et le chemin peut être ici celui d'une référence à la notion de généalogie, telle qu'elle est entendue dans la philosophie de Nietzsche, renoncer à la recherche toujours improbable, des fondements de l'objet d'étude, pour s'attacher à leur origine et, comme le dit Nietzsche, à la connaissance des conditions et des circonstances de leur naissance, de leur développement, de leur modification. C'est cette démarche que je voudrais faire mienne. Afin de comprendre comment la puissance publique est saisie par la mondialisation, qui tout à la fois peut livrer certains de ses caractères fondamentaux et les travailler dans une dynamique qui donne du sens à l'une comme à l'autre. Dans la perspective ainsi définie, notre recherche se trouve focalisée ici sur la notion de puissance. La question de l'effet de la mondialisation sur sa qualification de public étant un problème spécifique que nous n'aborderons pas ici directement, nous en parlerons peut-être ce soir dans le courant du débat. Cela dit, toute puissance publique, et plus largement toute puissance, Hannah Arendt nous le rappelle, se présente sous deux visages, tout à la fois distincts et superposés comme le masque de la tragédie antique, celui de la coercition et de la violence, celui de l'action et de la volition. Le premier se manifeste à partir d'un constat désormais évident. La mondialisation, comme l'a écrit Mireille Delmas-Marty, n'est pas seulement économique. Elle se manifeste par une interpénétration des sociétés et des cultures qui ne soulève pas moins de problèmes. Et l'on sait que cette interpénétration, on sait trop aujourd'hui en particulier, que cette interpénétration prend aujourd'hui la forme dramatique d'une opposition frontale qui se traduit par un terrorisme mondial évoluant vers une sorte de guerre civile généralisée. On sait aussi que, confrontés à cette situation, les puissances publiques tentent une riposte qui les conduit à un ensemble de mesures évidemment nécessaires, mais coercitives et violentes, que l'on regroupe aujourd'hui sous l'appellation d'état d'exception. Quel est aujourd'hui le visage de ces puissances publiques, soumises à une nécessité défensive qui va bien souvent à l'encontre de leurs valeurs essentielles. C'est la première question que nous envisagerons. Le second visage de la puissance publique, celui de l'action et de l'abolition, apparaît avec l'interrogation de la place qui peut être le sien face aux enjeux actuels de la gouvernance mondiale. Ici, c'est la puissance dans sa relation à l'acte qui doit se trouver interrogée. Interrogée en remontant en particulier à la conception aristotélicienne et à la distinction qui en résulte entre puissance d'agir et agir en puissance. C'est cette dernière situation que je nomme pouvoir de rétention qui sera dans un deuxième temps mis en perspective avec les enjeux de la gouvernance mondiale. Mais d'abord, mondialisation et puissance publique comme pouvoir d'exception. Malaise dans la mondialisation. Tel est bien, justement, pour reprendre un titre célèbre, le constat qui résulte aujourd'hui d'un regard général sur la société internationale. D'un côté, en effet, l'aveugle loi du marché, mal contenue par la fragile mise en place d'un droit de la mondialisation, paraît désormais tempérée par l'émergence d'une mondialisation du droit, se traduisant par la constitution d'un droit commun mondial ayant pour socle les droits de l'homme. Marché et droits de l'homme, d'abord étrangers, voire antinomiques, parviendraient ainsi progressivement à une relative harmonisation. Mais cette vision un peu irénique de la mondialisation est, on le sait, profondément mise en cause par le visage qui est aujourd'hui le sien depuis le traumatisme du 11 septembre. Les conséquences de cette nouvelle situation sont bien connues. Des atteintes sourdes ou manifestes, mais toujours plus graves et plus fréquentes aux droits de l'homme, laissant craindre cette fin des droits de l'homme que prophétisait Hannah Arendt en 1950. Le malaise, pourtant, est sans doute plus profond encore, car au-delà de l'atteinte aux droits de l'homme, c'est la nature de l'État démocratique qui est en cause. C'est cet État, dans ses structures comme dans ses valeurs, qui est atteint, atteint pris qu'il est dans le piège redoutable d'une action défensive qui se referme sur lui. Et l'on aura reconnu justement cet état d'exception qui paraît bien ainsi être une figure essentielle de la relation actuelle entre mondialisation et puissance publique. Et pour en comprendre la portée, on voudrait avancer deux hypothèses. D'une part, cette mondialisation de l'insécurité semble brouiller les conditions du pouvoir d'exception, tandis que d'autre part, elle en trouble la condition même. La mondialisation de l'insécurité brouille effectivement les conditions du pouvoir d'exception. Le pouvoir d'exception est une institution profondément ancrée dans l'histoire, c'est une institution classique du droit romain, comme l'a montré Yann Thomas, et sous des formes diverses, il a traversé notre histoire, revêtant aujourd'hui une dimension nouvelle sous l'emprise de cet état de guerre civile larvé qui traverse désormais la mondialisation. Je pense à cette formule de Ben Laden lors d'une des dernières apparitions qui se disait « président du monde ». Quels sont les caractères de cette insécurité mondiale qui viennent brouiller aujourd'hui les conditions du recours au pouvoir d'exception ? L'ubiquité de la menace, d'abord, qui ne peut être localisée ni circonscrite. La permanence, ensuite, d'une action dont on n'aperçoit jamais l'éventuel achèvement. L'imprévisibilité quant au moment, au lieu, aux modalités de l'opération qui est pourtant annoncée. L'insaisissabilité des acteurs, enfin, fuyant au point d'être invisibles, ou visibles simplement pour conforter leurs menaces. Et aujourd'hui, la dimension planétaire de ces caractères, surdéterminée par l'instantanéité des communications, leur donne une puissance jamais atteinte. Face à une telle situation, quelle est, quelle peut être la riposte des États, la riposte des puissances publiques? Quelles sont les conditions et les caractères de ce pouvoir d'exception qui se trouve profondément affecté par cette sorte de novation mondiale de la terreur? Nous ne passerons pas en revue, ici ce serait beaucoup trop long, la multiplicité des actes qui ont été pris dans l'ensemble des États, démocratiques ou non, au nom de cet état d'exception. On sait qu'ils ont été particulièrement importants depuis 2001, particulièrement importants aux États-Unis, et le Patriot Act du 26 octobre 2001 en est en quelque sorte une forme emblématique. Mais il y en a eu beaucoup d'autres dans l'ensemble des pays, et tous sont vont dans la même direction d'une atteinte aux droits de l'homme et aux principes de la démocratie. À partir de ce constat, il convient, de manière synthétique, de tenter de dégager les traits essentiels de ce nouveau visage du pouvoir d'exception pour mieux saisir ce brouillage dont nous avons parlé. Ce qui apparaît d'abord, c'est la banalisation de ce pouvoir. Banalisation qui, paradoxalement, n'a plus rien aujourd'hui d'exceptionnel. Et en fait, on est passé d'une logique de la substitution, les mesures d'exception remplaçant les mesures normales mises en sommeil pendant une période déterminée, à une logique de coexistence et de permanence. Il s'établit effectivement une situation dans laquelle les normes d'exception ne se substituent plus vraiment aux normes habituelles, mais coexistent simultanément avec elles, créant un véritable brouillage dans le recours aux unes ou aux autres, qui relève toujours ainsi davantage de l'arbitraire et du secret. C'est ce que Étienne Balibar appelle, d'une manière tout à fait intéressante, la face d'exception de l'État. Face d'exception de l'État, distinguée de la notion classique d'État d'exception, en soulignant la permanence de cet aspect d'un État qui est en même temps État de droit et État de police, État d'inclusion et État d'exclusion. Le deuxième trait qui nous paraît essentiel, c'est que le pouvoir d'exception constitue une atteinte de nature spécifique qui est faite aux individus, une atteinte à ce que le philosophe italien Giorgio Agamben appelle la vie nue. La vie nue que les Grecs désignaient par le terme zoé, qu'ils distinguaient du terme bios. Le terme zoé renvoyant au simple fait de vivre commun à tous les autres vivants, alors que le terme de bios renvoie à la vie déjà organisée dans la cité. Et avec ce concept de vie nue, Agamben se situe dans la ligne directe des analyses de Michel Foucault, qui, ici même, le premier, a mis l'accent sur le fait que le nouvel enjeu du pouvoir est désormais l'individu, non plus seulement en tant que citoyen ni même homme, mais simple corps vivant. Et c'est bien ce corps vivant, ce corps souffrant, séparé de son statut d'homme et de citoyen, qui est l'objet, trop souvent, du pouvoir d'exception lorsqu'il exerce sa violence sur les individus. Et à cet égard, on peut penser à cette notion dégagée par Jean-Claude Monod de l'ennemi inédit. L'ennemi inédit pour l'administration américaine, c'est l'ennemi précisément qui, en raison du caractère inédit de sa situation, échappe à toutes les règles de droit et par conséquent est soumis à un régime qui est totalement dégagé de toutes les garanties nationales ou internationales du droit. Au-delà de ces manifestations, se pose d'une manière, je crois, importante, la question de la nature de cette relation qui est établie entre un tel aspect de la mondialisation et la réaction des puissances publiques. Et ici, le constat est celui que la riposte, la réplique des puissances publiques à cette situation en constitue une réplique à l'autre sens du terme, c'est-à-dire une duplication. Le pouvoir d'exception serait alors, dans ses caractères, le miroir ou le double de la situation dont il reproduit les traits alors qu'il veut les combattre. Et la relation puissance publique-insécurité mondiale aurait ainsi, en quelque sorte, une nature mimétique. Dans son ouvrage « Théorie du partisan » en 1963, Carl Schmitt, auteur que l'on utilise avec toutes les précautions d'usage, mais ici il a été fort lucide, Carl Schmitt écrit « Dans le cycle infernal du terrorisme et du contre-terrorisme, la lutte contre le partisan n'est souvent que l'image inversée du combat partisan lui-même. » Et quelques années plus tard, en 2002, Ronald Dworkin disait qu'il fallait développer une politique d'irrégularisation des irréguliers. Et je crois qu'un certain ministre, dont il vaut mieux oublier le nom, en France, se proposait de terroriser les terroristes. On est dans cette logique. On dira qu'une telle vision des choses est excessive, qu'elle relève d'un fantasme trop important. Elle a cependant le mérite d'inciter à la vigilance, et cette vigilance est d'autant plus nécessaire qu'on peut se demander si le pouvoir d'exception ne livre pas, au-delà de ce qui vient d'être dit, au moins c'est certaines analyses qui l'affirment, le ressort secret et déterminant de tout pouvoir actuel. Et donc, interrogeons-nous sur la mondialisation de l'insécurité qui trouble la condition même de ce pouvoir d'exception. Ce trouble, on va le voir, provient de la logique contradictoire dans laquelle est prise l'exercice de ce pouvoir et des lectures opposées qui lui sont faites. Ce qui apparaît d'abord, effectivement, c'est qu'on est en présence d'une contradiction, ou du moins d'une ambiguïté, quant au lieu où se noue cette relation entre pouvoir d'exception et mondialisation. On observe en effet qu'elle se manifeste aux limites ou aux frontières de la puissance publique, en même temps qu'elle met en cause le sens de sa nature profonde, selon un processus qui rappelle le beau roman de Joseph Roth, La marche de Radetzky, où ce qui se passe aux frontières du pays livre le sens de ce qui se trame secrètement au cœur même de l'Empire. Et cette ambiguïté, surdéterminée par la mondialisation de l'insécurité, se trouve dégagée dans deux directions fondamentales, celle de la juridicité et celle de la souveraineté. La relation du pouvoir d'exception à la juridicité, dans le contexte actuel, est complexe. D'ailleurs, on relève souvent la contradiction entre deux adages, « nécessité ne fait pas loi » et « nécessité fait loi ». Et ce pouvoir d'exception est situé tantôt à l'intérieur du système juridique, tantôt à l'extérieur, tantôt aux frontières mobiles du juridique et du politique. Mais plus profondément, il apparaît que les mesures exceptionnelles, Agamben le relève très bien, sont des mesures juridiques qui ne peuvent être comprises d'un point de vue juridique. Et que l'état d'exception se présente alors comme la forme légale de ce qui ne peut pas avoir de forme légale. Or, aujourd'hui, la relation de la guerre civile mondiale vient jeter un trouble dans cette relation du pouvoir d'exception au droit. Avec les caractères qui sont aujourd'hui les leurs, les mesures d'exception perdent toute localisation. Elles perdent toute localisation et, du coup, intérieur et extérieur ne s'excluent pas, mais s'indéterminent, entraînant en quelque sorte une perte de repère pour la juridicité. Et cette perte de repère de la juridicité est d'autant plus préoccupante qu'on est amené à lier ici la juridicité à la souveraineté. est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle. Seule cette définition peut satisfaire à la notion de souveraineté en tant que notion limite. Telle est l'affirmation qui ouvre la théologie politique de Schmitt et qui, évidemment, vous vous en doutez, a fait l'objet de nombreux commentaires, d'autant que la souveraineté est une notion sans doute indécidable. Mais ce qui est intéressant ici, c'est l'importance de cette notion de limite. Le souverain, effectivement, pour Schmitt, est en marge de l'ordre juridique, mais en même temps, non seulement est soumis à cet ordre juridique, mais est le cœur du système juridique. Il est donc à la marge pour fonder le droit, il est au cœur du système juridique pour le justifier. Et c'est bien là le sens, finalement, d'un pouvoir d'exception. Assimilé à la notion de souveraineté, le pouvoir d'exception serait bien l'expression même de ce jeu contradictoire de la limite et du centre. Ce qui soutient, justifie le système, n'est pas en son centre, mais se joue dans la zone parfois indéterminée de la frontière, livrant la souveraineté aux incertitudes de l'arbitraire. Alors, à partir de là, deux lectures sont possibles. La première est celle de Schmitt, mais celle aussi des marxistes comme Benjamin Nager et aujourd'hui Balibar ou Agamben, justement. Et il est ici considéré que l'état d'exception n'a rien d'exceptionnel, non seulement parce qu'il est banalisé, mais parce qu'il exprime la violence fondamentale qui est la nature cachée, mais véritable de l'État, du droit et du libéralisme moderne. Cette conception n'est pas sans intérêt, mais on ne peut occulter ici son caractère, malgré tout, autodestructeur. Car si effectivement l'état d'exception constitue la nature même de la puissance publique, comment celle-ci pourrait-elle le combattre? Comment celle-ci pourrait-elle résister à ce qui constitue sa substance et son essence même? Et c'est pour échapper à cet enfermement que Jean-Claude Monod s'attache à une autre lecture, qui consiste à prendre conscience de cette dérive, mais à s'appuyer sur les valeurs fondamentales de la démocratie et des droits de l'homme pour les conforter et les protéger. Et il est vrai, nous l'avons vu, qu'avec toutes les difficultés qui sont les siennes, l'état de droit existe malgré tout et que les mesures de l'état de droit ne sont pas toujours défaillantes. Mais, comme le dit Judith Butler dans son dernier ouvrage « L'état global », il faut sans doute aller plus loin. Il faut aller plus loin et, pour comprendre les formes de résistance, définir, dit-elle, des moyens plus complexes d'appréhension de la multivalence des tactiques du pouvoir. Et parmi les voies possibles d'une telle ouverture, celle d'un déplacement de l'analyse vers la problématique de la représentation pourrait être retenue. Le champ est immense, complexe, et de surcroît la représentation n'a pas toujours bonne réputation. Mais on voudrait justement rappeler ici que la représentation ne doit pas seulement être envisagée sous son aspect négatif de dessaisissement et d'absence, mais, comme Jean-Luc Nancy l'a montré, comme un moyen irremplaçable de donner du sens, comme un moyen irremplaçable d'accéder à ce qui, sans elle, est insaisissable. Et dans le sillage des recherches de Pierre Rosanvallon, ne faudrait-il pas se diriger, au sein de toutes les instances engagées dans la mondialisation, vers un recours pragmatique à la représentation, à une représentation réhabilitée, revivifiée, dont on chercherait à diversifier et à étendre le champ et à améliorer les conditions, pourrait peut-être alors être exorcisé les effets délétères de ce pouvoir d'exception. Mais l'ouverture peut être aussi celle de la mise en lumière de la nature plus profonde de la puissance saisie alors, nous l'avons dit, comme pouvoir de rétention, et c'est à cela que je voudrais maintenant m'attacher. Crise dans la mondialisation. Tel est le constat que dresse Mireille Delmas-Marty à l'orée du troisième volet de sa réflexion « Les forces imaginantes du droit ». Le vieux monde des États-nations et des relations interétatiques connaît, il est vrai, un inéluctable déclin, alors que le monde nouveau, supra- ou alternational, n'a pas encore émergé, comme nous l'avons vu. Et il est certain que ce vide appelle une refondation des pouvoirs, au croisement, justement, des pouvoirs, des vouloirs et des savoirs. Et c'est en se situant à ce croisement qu'il m'a semblé intéressant d'engager une réflexion conduisant aux sources mêmes de la notion de puissance publique, aux sources mêmes de l'idée de puissance, saisie alors, comme on va le voir, comme pouvoir de rétention. Dans quelle mesure ce pouvoir de rétention peut-il contribuer à éclairer la position des puissances publiques face aux enjeux de la mondialisation? C'est ce que nous voudrions aujourd'hui, c'est la réponse que nous voudrions donner aujourd'hui. Et cette réponse implique d'abord que l'on précise un peu ce que l'on entend par pouvoir de rétention. Et pour bien le saisir, il faut effectivement remonter à la philosophie d'Aristote, prolongée par Spinoza et aujourd'hui par Agamben. L'analyse de la puissance chez Aristote est une analyse dynamique, en ce sens qu'il retient différents moments de son déploiement et qu'il distingue la puissance energeia de ce qui la réalise, dynamis. Il distingue la puissance de l'acte, qui en sera l'accomplissement. Et à partir de là, un des concepts clés de la compréhension de la puissance chez Aristote est celui de faculté. La faculté est la puissance de celui qui a déjà acquis un certain savoir, de celui qui a manifesté certaines dispositions. La puissance de l'architecte, nous dit Aristote, qui a effectivement la faculté, la puissance de construire, même évidemment lorsqu'il ne construit pas. Ou encore, nous dit-il, la puissance, la faculté du joueur de sitar, qui a la puissance de jouer, bien évidemment, alors même qu'il ne joue pas. Et Aristote précise dans sa métaphysique, ce qui a puissance d'être peut aussi bien être et n'être pas, la même chose est donc puissance et d'être et de n'être pas. Et dès lors, l'impuissance, comme le souligne Agamben, ne signifie pas absence de toute puissance, mais puissance de ne pas éventuellement passer à l'acte. Et il faut donc distinguer fondamentalement la situation dans laquelle je ne peux pas de la situation dans laquelle je peux ne pas. Et on comprend l'intérêt essentiel de cette puissance retenue, du « je peux ne pas », qui est de conserver un potentiel qui ne se réduit ni ne s'épuise dans sa réalisation par l'acte, qui demeure cependant toujours possible. Cela dit, il faut s'interroger sur l'intérêt de ce pouvoir de rétention aujourd'hui dans la mondialisation. Est-ce un pouvoir possible dans la gouvernance mondiale? Pour y répondre, il faut d'abord se demander quel est ce monde que l'on veut gouverner. Il est évidemment d'abord celui des hommes, de leurs relations complexes. Mais il est aussi celui des choses, de la nature et de la terre sur laquelle les hommes ont mis la main. Et il faut distinguer ces deux situations. Le pouvoir de rétention comme pouvoir de gouvernance du monde concernant le gouvernement des hommes et de la société peut être saisi si l'on rappelle que la puissance a essentiellement un caractère relationnel. La puissance, c'est toujours le recours à l'autre. Il faut remonter ici à Nietzsche, qui analyse la puissance comme le multiple étant la relation à l'autre, la réaction à l'autre, la réponse à l'autre, la lutte contre l'autre. Et dans cette logique de l'altérité, le pouvoir de rétention se trouve traversé par le jeu double et le double jeu de la visibilité et de la crédibilité. La rétention du pouvoir n'est évidemment d'intérêt que si, d'une manière ou d'une autre, elle atteint l'autre, d'où la visibilité. Ce qui ressort, par exemple, de l'analyse récente de Freddy Rigaud, qui dit « Ce qui fait la force de la force, c'est de faire peur et de retenir, et ce qui retient, c'est une image. » Visibilité. Visibilité qui peut prendre plusieurs modalités. Visibilité qui, lorsque la puissance est cryptée, première modalité, relève, pour celui qui l'a subi, du soupçon. Lorsque, toujours sans être exercée, elle est seulement exhibée, elle relève alors du symbole. Et lorsqu'elle est annoncée, sous certaines conditions, elle relève alors de la menace. Et on le comprend, tout le problème du pouvoir de rétention est celui de l'affirmation de la puissance comme pouvoir ne pas, qui ne soit pas prise pour une impuissance, pour un « je ne peux pas ». Et donc, la visibilité débouche sur la crédibilité. Effectivement, les signes présumés ou exhibés de la puissance doivent être crédibles, ce qui implique une relation dans laquelle la puissance est reconnue comme réelle, effective et susceptible de s'exercer à tout moment, alors qu'elle n'est pas montrée, elle n'est pas démontrée, elle est simplement montrée. Lorsque elle concerne la relation à l'autre, à la nature, pardon, lorsqu'elle concerne la relation à la nature, la gouvernance du monde soulève des questions spécifiques et extrêmement importantes. Le récent rapport des Nations Unies GO4 suffit à le montrer. Mais le pouvoir de rétention prend ici une nouvelle dimension. On n'est plus dans le calcul ou dans la stratégie. Vis-à-vis de la nature, le pouvoir de rétention se situe dans le champ bien différent de l'éthique, de la responsabilité, de cette heuristique de la peur dont Hans Jonas a fait un des centres de toute cette analyse. Et dans le champ tracé par ces valeurs, le pouvoir de rétention peut être sans doute appréhendé de deux manières. La première, classique, c'est celle dans laquelle ce pouvoir relève d'une logique de l'abstention, de l'attente, du renoncement, de l'interdit, d'une prudence, en quelque sorte, qui suspend l'initiative, le mouvement et l'action. Nouvelle éthique qui s'érige, on l'aura reconnu, autour du principe de précaution, dont la place éminente dans notre système juridique, aujourd'hui, n'est pourtant pas un gage de clarté. Et il existe sans doute, justement, un autre visage, ici. Le pouvoir de rétention retrouvant la dynamique de la puissance qui n'est plus seulement celle du renoncement ou de l'interdit, mais l'exercice d'une puissance dans sa dimension générique et première, celle justement de « je peux ne pas ». Se dégagerait alors, au-delà d'une heuristique de la peur, une heuristique de la puissance retenue d'un pouvoir ne pas. Et une telle perspective peut paraître évidemment incertaine, difficile à saisir, voire hasardeuse. Mais elle peut trouver un appui sur une ligne de pensée un peu oubliée aujourd'hui, mais qui a été remise dans la pensée contemporaine, dans le mouvement de la pensée contemporaine par Jean-Pierre Dupuis, et il s'agit de la philosophie d'Ivan Illich. Ivan Illich, nous serons amenés à dire cela très sommairement, car ses conceptions sont complexes, mais pour l'essentiel, établit une direction, une distinction, entre ce qu'il appelle l'action hétéronome des individus et des instances, nécessitant le recours aux autres, c'est-à-dire aux institutions, l'école, l'hôpital, les transports en commun, etc., et l'action autonome, réalisée par moi-même, sous ma responsabilité, de ma propre initiative, sans que j'aie besoin d'avoir recours aux autres individus, aux autres institutions ou aux services professionnels. Et Illich explique que la modernité va dans le sens d'un développement exagéré de l'action hétéronome, qui, à partir d'un certain seuil, débouche sur ce qu'il appelle une contre-productivité. À trop avoir recours à l'école, l'école bétifie, dit-il. À trop avoir recours à l'hôpital corrompt la santé. À trop avoir recours aux transports en commun, les transports immobilisent, etc. Et donc, il faut revenir à l'action autonome de l'individu, à l'action autonome de ceux qui veulent conduire une action. Or, l'exercice autonome d'une activité est bien la manifestation, non point d'une abstention ou d'un renoncement, mais au contraire, justement, d'une puissance. La puissance du « je peux », mais aussi celle du « je peux ne pas ». Je peux ne pas, pour réaliser mon action, avoir besoin des autres, des institutions, des services ou des mécanismes du pouvoir. Et Illich résume cela sous la notion de convivialité, qu'il définit comme l'énergie personnelle que contrôle la personne. C'est bien là, me semble-t-il, une excellente définition du pouvoir de rétention. Possible, souhaitable, et nous voudrions terminer dans cette perspective, l'exercice de la puissance retenue soulève malgré tout un certain nombre de difficultés et d'ambiguïtés. Car le pouvoir de rétention peut tout à la fois être une expression de la liberté, comme ouvrir la route de la servitude. Expression de la liberté, Agamben nous le dit lorsque il nous explique que ce pouvoir nouveau pourrait être, qui est celui du « je peux ne pas », pourrait être le lieu où le problème moderne de la liberté pourrait trouver son fondement. Et effectivement, la faculté de pouvoir ne pas est bien le gage d'une liberté, plus encore que celle de pouvoir, puisque cette rétention est la manifestation d'une énergie toujours disponible, grosse de possibilités, qui traduit bien ici une véritable liberté. Et d'une manière concrète, le pouvoir de rétention pourrait être, pour les différentes instances concernées par la mondialisation, un espace de liberté et de flexibilité. Face au jeu parfois trop rigide des dépendances et des interdépendances nées de la complexité des réseaux mondiaux. Et plus largement, cette faculté de rétention peut être un aspect essentiel de cette forme émergente de la liberté que l'on appelle aujourd'hui la liberté personnelle. Liberté personnelle qui permet de donner à chacun la maîtrise et la responsabilité de son destin et qui n'est pas sans relation avec la notion d'intime chez Hannah Arendt ou du souci de soi de Michel Foucault, des derniers écrits de Michel Foucault. Le risque de servitude néanmoins existe, et il pèse toujours secrètement sur le pouvoir de rétention, et cela dans deux directions. La première est la plus apparente. Effectivement, le pouvoir prenant la forme d'une puissance qui ne se dévoile jamais peut être considéré comme particulièrement redoutable. Retenu, il peut s'imposer sans limite. Suspendu qu'il est à une visibilité égarée par le fantasme et à une crédibilité minée par l'incertitude. Et là, nous sommes devant une sorte d'asymétrie majeure qui est la rupture de la relation entre voir et être vu. Celle où l'on est vu sans voir celui qui voit, sans savoir qui nous voit, comment on nous voit, de telle manière que l'on peut imaginer que l'on est vu d'une manière permanente. On aura reconnu la formule du panoptisme inventée par Benta, mais reprise par Michel Foucault comme le modèle central du pouvoir moderne. Mais le risque de servitude peut apparaître d'une manière plus subtile encore. Nous avons dit tout à l'heure l'importance de la responsabilité personnelle dans le stillage de l'analyse d'Ivan Illich, c'est-à-dire la faculté d'agir par soi-même sans compter sur l'intervention d'instances spécifiques, en particulier celle de l'État pour la conduite de son action dans les différents domaines. Ce qui veut dire que l'affirmation de l'autonomie de l'individu doit entraîner le reflux de l'action de la puissance publique à laquelle il ne faudrait pas s'adresser pour demeurer autonome. Il s'ensuit une valorisation de l'individualisme, une méfiance vis-à-vis de la puissance publique, souvent identifiée à l'enfermement bureaucratique, à l'oppression d'une tutelle qui, se substituant à l'action des citoyens, inhibe leurs facultés affaiblit leur puissance et en fait des assistés. Et bien souvent, certains États, dans l'idéologie libérale d'aujourd'hui, en profitent pour se désengager, comme on le voit aujourd'hui en matière médicale ou dans le dernier code du travail qui est en délibération devant l'Assemblée nationale. Le risque de ce désengagement et de la survalorisation de l'individu est qu'on arrive alors à la figure inquiétante de l'individu responsable, puissant peut-être, mais solitaire et qui ne sait plus être solidaire. Et le risque de cette société sérialisée, pour reprendre la formule de Sartre, existe d'autant plus qu'elle est, nous semble-t-il, le reflet exact de la nature même du marché, qui en est le ressort secret. Mais ne terminons pas sur cette sombre vision. Des voies existent pour que notre société mondialisée ne soit pas le lieu de l'impuissance derrière laquelle se profilerait la servitude. Il en est une qui nous paraît essentielle, celle d'une conception autre de la puissance publique, identifiée non plus à l'État et à ses dérives bureaucratiques, mais à la vie réelle, qui s'exprime dans le commun, dans la comparution, pour reprendre un terme de Jean-Luc Nancy, l'immanence vivante du collectif se substituant à la transcendance mortifère de l'étatique. Mais ce point-là, cette force imaginante, qui sourd sous l'idée que formulait il y a un instant Mireille Delmas-Marty d'un espace mondial sans État, s'il en était ainsi, l'inquiétante prophétie d'Anna Arendt pourrait être exorcisée et le déclin de l'État-nation, le risque de ce désengagement et de la survalorisation de l'individu et qu'on arrive alors à la figure inquiétante de l'individu responsable, puissant peut-être, mais solitaire et qui ne sait plus être solidaire. Et le risque de cette société sérialisée, pour reprendre la formule de Sartre, existe d'autant plus qu'elle est, nous semble-t-il, le reflet exact de la nature même du marché qui en est le ressort secret. Mais ne terminons pas sur cette sombre vision. Des voies existent pour que notre société mondialisée ne soit pas le lieu de l'impuissance derrière laquelle se profilerait la servitude. Il en est une qui nous paraît essentielle, celle d'une conception autre de la puissance publique, identifié non plus à l'État et à ses dérives bureaucratiques, mais à la vie réelle, qui s'exprime dans le commun, dans la comparution, pour reprendre un terme de Jean-Luc Nancy, l'immanence vivante du collectif se substituant à la transcendance mortifère de l'étatique. Mais ce point-là, cette force imaginante, qui sourd sous l'idée que formulait il y a un instant Mireille Delmas-Marty, d'un espace mondial sans État, s'il en était ainsi, l'inquiétante prophétie d'Anna Arendt pourrait être exorcisée et le déclin de l'État-nation ne serait pas la fin, mais au contraire le renouveau des droits de l'homme.